Lockheed L188 Electra, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. fr.wikipédia.org. Le Lockheed L188 Electra est un avion de ligne à turbopropulseur construit aux États-Unis. Son premier vol a eu lieu en 1957. Il rencontre d'abord le succès, mais les ventes s'effondrent après deux accidents qui nécessitent d'importantes et très onéreuses modifications, ce qui met fin à sa carrière commerciale, d'autant que les moteurs à réaction s'imposent dans l'aviation au détriment des turbopropulseurs. Sa production s'arrête dès 1961 après seulement 170 exemplaires construits, les appareils restants étant graduellement convertis par la suite en cargo de fret ou pour des usages militaires. Les performances du L188 Electra sont à peine inférieures à celles d'un avion à réaction avec des coûts d'exploitation moindres. Conçu pour accéder aux aéroports régionaux des années 1950, incapable de recevoir des jets, l'Electra est capable de se poser sur des pistes courtes et non recouvertes et il ne nécessite qu'un minimum d'infrastructures au sol, ce qui en fait un appareil très utile dans des régions isolées. La cellule de l'avion a donné lieu à un dérivé militaire, le Lockheed P-3 Orion de patrouille maritime, construit en bien plus grande série, 757 exemplaires, et encore en service en 2021 dans les forces armées de nombreux pays. Section 1, origine. Vers 1950, Lockheed occupe une place enviable sur le marché des avions de ligne long courrier avec sa prestigieuse série Constellation. À travers ses différentes versions, ce quadrimoteur est produit à 856 exemplaires de 1943-1958 et sert d'avion de transport au président des États-Unis Dwight Eisenhower. Lockheed s'intéresse beaucoup aux turbopropulseurs. Le projet d'installer des turbopropulseurs sur une cellule de Constellation se concrétise par quatre prototypes, mais l'avion ainsi obtenu consomme des quantités excessives de carburant. Lockheed établit un cahier des charges finalisé en 1954 pour un avion de ligne à turbopropulseur. Cette technologie, appelée à l'époque PropJet par Lockheed, est envisagée comme transitoire. L'avion doit avoir une vitesse de croisière de 640 km/h et une autonomie de 3000 km, être particulièrement économe à l'achat et l'entretien, transporter 99 passagers et pouvoir effectuer des escales courtes sans ravitaillement intermédiaire. Il doit surtout être compatible avec les aéroports régionaux existants, ces derniers n'étant susceptibles de recevoir des jets qu'après de coûteuses améliorations, notamment l'allongement des pistes. L'équipe chargée du projet est la même qui a conçu le Lockheed C-130 Hercule, avion de transport militaire tactique au succès hors du commun dont des dérivés sont encore en production en 2021. Les premiers croquis ressemblent à un dérivé civil direct du Hercule, mais l'avion s'en éloigne ensuite en adoptant notamment une aile basse, même s'il conserve les moteurs du Hercule. Le L-188 est la désignation constructeur. Le nom choisi, Electra, fait référence à un célèbre bimoteur de l'avant-guerre, le Lockheed L-10 Electra, lui-même nommé d'après l'étoile Electra de l'amas des Pléiades. C'est à bord d'un L-10 qu'Electra, Camelia Earhart, a tenté le tour du monde pendant lequel elle disparut en 1937. Nommer les avions d'après des objets astronomiques est une tradition chez Lockheed, CF le C5 Galaxy ou le Constellation. Section 2, caractéristiques. L'avion est entièrement construit en alliage d'aluminium. Il est aménagé de façon assez dense, visant à transporter jusqu'à une centaine de passagers sur des étapes assez courtes. La vitesse de croisière atteint presque 650 km/h. La conception de l'Electra est largement influencée par celle du Vickers Viscount britannique, premier avion de ligne turbopropulsé au monde. Section 2.1. Un avion peu exigeant. L'une des caractéristiques les plus significatives de l'Electra est sa faible exigence en matière d'infrastructure au sol pour un avion de cette taille. Grâce à la puissance de ses moteurs, presque doublée par rapport au Constellation alors que l'Electra est un peu plus petit, et au fait que l'essentiel de la surface des ailes est soufflé par le flux d'air des hélices, l'Electra n'a besoin que d'une piste de 1440 mètres pour décoller. De plus, il peut parfaitement se poser sur des pistes non recouvertes, qu'elles soient en herbe ou en terre battue, ou même recouvertes de neige. Dans cette même optique de réduction des exigences au sol, mais aussi pour minimiser les temps d'embarquement et de débarquement, l'avion possède ses propres escaliers d'accès escamotables, deux, un pour chaque porte. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une passerelle. Les portes sont situées du côté gauche. Pendant que les passagers débarquent et embarquent à gauche, les autres opérations sont effectuées du côté droit, ravitaillement en carburant, remplissage des réserves d'eau, vidange des toilettes, etc. L'avion utilise normalement l'aide d'une alimentation au sol pour démarrer ses moteurs. Cependant, il possède des batteries et un onduleur qui lui permettent, au besoin, de démarrer de façon totalement autonome, sans l'aide du moindre équipement au sol. Section 2.2, motorisation. L'Electra est équipé de 4 turbopropulseurs Allison 501D-13 de 3750 chevaux chacun. Ils sont pratiquement identiques au Allison T56-1O du C-130A, première version de série du Hercules. Dans les années 1950, le turbopropulseur est une technologie tout aussi nouvelle que le turboréacteur. Comme ce dernier, il consiste essentiellement en une turbine à gaz. La différence est qu'il prélève le plus d'énergie cinétique possible au flux des gaz sortants et l'utilise pour actionner une hélice. Dans le cas de l'Electra, Le flux chaud sortant de la turbine ne représente que 8% de la poussée du moteur, 92% étant exercé par l'hélice. Comparé à un moteur à piston de puissance équivalente, ce turbopropulseur est environ 50% plus léger. La puissance réellement fournie par le turbopropulseur à l'hélice est de 3460 chevaux. Le chiffre de 3750 chevaux est obtenu en ajoutant, par une équivalence, la poussée du flux d'échappement de la turbine. Dans un souci d'évolutivité de l'avion, la nacelle est prévue pour accueillir la version 501D-15, non disponible au moment où l'avion était commercialisé, offrant 300 chevaux de plus. Les nacelles moteurs de l'Electra ressemblent à celles du C-130 Hercule, qui seraient montées à l'envers. La turbine se situe au-dessus de l'aile et l'entrée d'air au-dessus du moyeu de l'hélice. L'aile étant en position basse, cette disposition permet de réduire le risque d'injection de débris au décollage ou à l'atterrissage. Par ailleurs, le fait de placer les turbines au-dessus de l'aile permet d'offrir plus de garde-sol aux hélices. Avec les moteurs sous les ailes, l'Electra aurait eu besoin d'un train d'atterrissage plus haut ou d'hélices plus petites. D'autres avions similaires de la même époque, comme l'Ilyushin 18, ont d'ailleurs la même disposition que l'Electra. L'Electra est surmotorisé. Son rapport puissance-poids est exceptionnel. Avec 15 000 chevaux pour une masse maximum au décollage de 51 tonnes, il offre 0,29 chevaux par kilogramme à pleine charge. C'est plus que certains avions civils à turbopropulseur beaucoup plus récents. La TR-42, lancée dans les années 80, se situe à 0,23 chevaux par kilogramme. L'Electra sur ce plan est à égalité avec un A400M qui dispose de 44 000 chevaux pour 151 tonnes de masse maximale au décollage. L'avion a tellement de réserves de puissance que les équipages des P3 Orion, sa version de patrouille maritime, ont l'habitude de couper un moteur, voire exceptionnellement deux, en plein vol, pour réduire la consommation de carburant lorsqu'ils doivent effectuer de très longs vols à faible vitesse. Section 2.3, cabine. La cabine de l'avion mesure 20 mètres de long pour 2,70 mètres de large et 1,93 mètres de haut. L'aménagement le plus courant place 4 sièges par rangée avec un total de 72 places, dont 6 de première classe. Mais le nombre de passagers peut être largement supérieur avec des aménagements plus denses. L'équipage de cockpit se compose d'un pilote, un copilote et un ingénieur de vol. Section 2.4, voilure et système de carburant. La voilure relativement petite est, sur trois quarts de sa surface, enveloppée par le flux d'air des hélices, ce qui augmente sa portance. Elle se prolonge de volets de type Fowler particulièrement grands, ce qui contribue à réduire la vitesse au décollage et à l'atterrissage, donc la longueur de piste nécessaire. Les ailes contiennent la totalité des réservoirs de carburant, sont au nombre de 4, d'une capacité totale de 25 mètres cubes, et sont structurelles, c'est-à-dire que leur paroi est directement exposée à l'environnement extérieur. 2.5, système hydraulique électrique dégivrage. Chaque moteur entraîne une génératrice électrique synchrome de 60 kV pour l'alimentation. Le système fonctionne en 400 Hz. Trois génératrices suffisent pour alimenter l'ensemble des systèmes, il y en a donc une en réserve. Le dégivrage est considérablement simplifié sur un avion à turbine comparé au moteur à piston. Il est en effet possible de prélever de l'air comprimé et chaud en quantité largement suffisante à l'étage de compression des moteurs. Chaque moteur de l'Electra fournit ainsi, quand le dégivrage est nécessaire, de l'air sous une pression comprise entre 40 et 90 kPa à une température de près de 300 degrés Celsius. Les tuyaux acheminent de l'air en question le long du bord d'attaque des ailes, du stabilisateur et de la dérive, sans oublier le radome. Pressurisation, chauffage et climatisation. L'avion est bien sûr pressurisé. Si beaucoup d'avions utilisent un prélèvement d'air moteur pour la pressurisation, ce n'est pas le cas de l'Electra. L'air pour la cabine est fourni par deux petits compresseurs actionnés par les moteurs les plus proches du fuselage. La différence de pression maximale entre la cabine et l'extérieur est de 60 kPa, l'avion ne volant pas aussi haut qu'un jet. La climatisation utilise trois pompes à chaleur, une principale au fréon et deux auxiliaires à cycle air. Le chauffage, lui, est principalement assuré par des panneaux chauffants électriques disposés sur le sol et les parois latérales de la cabine. Deux chauffages à air pulsé, également électriques, sont aussi disponibles, l'un chauffant le cockpit, l'autre venant en appoint de la cabine, au démarrage ou par très grand froid. Section 3, un succès commercial de courte durée. Section 3.1, un début prometteur. Les ventes initiales de l'avion sont bonnes. Le jour où le prototype effectue son premier vol, Lockheed enregistre déjà 129 commandes, dont 40 exemplaires pour Eastern Airlines, 35 pour American Airlines, un chiffre très encourageant. L'avion est certifié le 22 août 1958 et la première liaison aérienne régulière est assurée par Eastern Airlines le 12 janvier 1959. Une soixantaine de commandes supplémentaires sont reçues. Liste des acheteurs de L188 par ordre décroissant de nombre. Eastern Airlines, compagnie américaine, en a acheté 40. American Airlines, compagnie américaine, 35. Northwest Oriental Line, compagnie américaine, 18. National Airlines, compagnie américaine, 14. Western Airlines, compagnie américaine, 12. KLM, compagnie néerlandaise, 12. Braniff International, compagnie américaine, 9. Capital Airlines, compagnie américaine, 5. Qantas, compagnie australienne, 4. Tasman Empire Airways, compagnie australienne, 3. Pacific Southwest Airlines, compagnie américaine, 3. Ansett Australia, compagnie australienne, 3. Garuda International, compagnie indonésienne, 3. Trans-Australia Airlines, compagnie australienne, 3. Cathay Pacific, compagnie de Hong Kong, 2. General Motors, compagnie américaine, en a acheté un comme million d'affaires. Au total, 167 avions ont été vendus, dont 114 en version L188A et 53 en version L188C à autonomie inclus. Ces avions ont été livrés de 1958 à 1961. Section 3.2, accident. Le premier accident impliquant un L188 survient en février 1959. Un avion d'American Airlines s'écrase lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York. Cet accident, qui ne laisse que 5 survivants sur les 73 occupants, est dû à une erreur de pilotage, mais il ébrèche déjà la réputation de l'avion. Surviennent ensuite deux accidents dans lesquels les avions se désintègrent en plein vol, ne laissant aucun survivant, ce qui provoque l'inquiétude. Il s'agit d'un appareil de Braniff Airways en septembre 1959, 34 morts, et d'un autre de Northwest Oriental Airlines, 65 morts au mois de mars suivant. L'enquête sur ces accidents permet de comprendre qu'une résonance mécanique et acoustique se produit entre les moteurs et les ailes, fatiguant la structure des ailes jusqu'à la rupture. Un programme correctif est mis en place. Section 3.3, remise en service. Lockheed prend en charge les modifications sur les 135 appareils en service et les applique directement sur les 30 restants à livrer. Ces modifications, désignées sous le nom de LEAP, Lockheed Electra Action Program, concernent principalement les nacelles moteurs et sont appliquées très rapidement. Chaque avion ne revient à l'usine de Burbank que pour deux journées. L'avion repasse sa certification FAA. Si les compagnies parviennent, au prix de longues campagnes de communication, à regagner la confiance des passagers, la carrière commerciale de l'avion ne redémarre pas. Aucune nouvelle commande n'est enregistrée après les accidents. Si le programme Electra n'a pas été un succès commercial, il donne naissance au Lockheed Petro-Orion, un avion de patrouille maritime qui rencontre un succès franc et durable. 757 exemplaires sont produits jusqu'en 1990 et l'avion est utilisé par les forces armées de 19 pays différents. L'Electra conserve la particularité d'être le seul avion de ligne de grande taille à turbopropulseur ayant été produit aux États-Unis. Section 4. Une carrière longue et diverse. Malgré l'absence de nouvelles ventes, les exemplaires existants du L188 connaissent une longue carrière et répondent à des besoins variés. L'avion est rapidement retiré à des liaisons régulières des passagers pour les grandes compagnies au profit de jets. Par exemple, KLM, seule compagnie européenne à avoir acheté des Electra, au nombre de 12, les utilise que jusqu'en 1969. C'est aussi en 1969 que Braniff retire le modèle de ses lignes. Chez Northwest, la carrière de l'avion s'arrête en 1972. Délaissé par les grandes compagnies, les Electra ne sont cependant pas loin de là à la fin de leur carrière. S'ils ne sont plus pertinents pour les grandes lignes aériennes régulières, des jets plus rapides, plus confortables et de plus grande capacité les ayant supplantés, ces avions conservent leur précieuse capacité à utiliser des pistes courtes et des aérodromes peu équipés. Ainsi, souvent convertis en cargo, ils sont longtemps populaires sur le marché de l'occasion et beaucoup d'entre eux changent de main de nombreuses fois. 4.1 États-Unis. Reeve Valley Ocean Airways, une compagnie régionale d'Alaska disparue en 2000, fait l'acquisition de plusieurs Electra d'occasion à partir de 1970. Parfaitement adaptés aux conditions locales, les Electra, succédant à des avions à moteur à piston, Douglas DC-3 et DC-6, assurent pendant près de 3 décennies des liaisons entre l'aéroport d'Anchorage et de petits aérodromes situés dans les îles Aléoutiennes, les îles Pribilof et la péninsule d'Alaska. Zontop International Airlines, un autre grand utilisateur d'Electra d'occasion, cette compagnie de transport charter en possède jusqu'à 25 à un moment donné. La National Center for Atmospheric Research utilise également un Electra doté de nombreux instruments spécialisés pour la recherche météorologique. 4.2 Canada. Panarctic Oil Limited, entité semi-publique créée en 1966 par le Canada pour organiser l'exploration pétrolière dans l'archipel arctique, utilise deux Electra au cours des années 1970 pour assurer le transport de personnel et de matériel vers les sites d'exploration où sont aménagées des pistes d'atterrissage rudimentaires. La compagnie Nordair, agissant pour le compte de Environnement Canada, ministère fédéral, utilise à partir de 1972 deux électrodes dotées de radars spéciaux pour la surveillance des glaces maritimes. Opérant à partir de Terre-Neuve, ces avions représentent la participation canadienne à la patrouille internationale des glaces, une opération multinationale ayant pour mission de localiser les icebergs dans le nord-ouest de l'Atlantique, une tâche importante pour la sécurité de la navigation. Amérique latine. L'Electra est très populaire en Amérique latine pour la desserte de régions isolées. Transporte Aéreo Militar l'utilise à cette fin en Bolivie, tandis qu'en Équateur, la compagnie publique TAME l'exploite jusqu'en 1989 pour relier les îles Galapagos au continent. La compagnie brésilienne Varig détient 14 Electra et l'utilise notamment pendant 30 ans pour assurer la navette aérienne entre Rio de Janeiro et São Paulo. Ils sont si emblématiques de cette ligne très fréquentée que leur retrait en 1991 au profit des Fokker 100 et des Boeing 737 fait l'objet d'une large couverture médiatique. Un concert de Antonio Carlos Jobim étant même organisé pour permettre aux Brésiliens de faire leurs adieux à cet avion. Quelques L188 sont d'ailleurs impliqués dans des affaires de stupéfiants. En Colombie, des Electra sont utilisés par plusieurs compagnies distinctes. Aero Condor Colombia les utilise pour le transport de passagers sur les principales lignes intérieures du pays. Plusieurs compagnies plus petites les emploient dans un rôle de cargo. Sur les 170 Electra produits, pas moins de 20 ont, à un moment donné, été immatriculés en Colombie. Au Honduras, deux compagnies, Transporte Nacional, ou TAN, et Servicio Aéreo de Honduras SA, ou SASA, rachètent des Electra d'occasion auprès de compagnies basées aux États-Unis pour le transport de passagers sur des lignes reliant le Honduras à ses voisins, au Mexique et au sud des États-Unis. Les autres compagnies ayant utilisé des Electra dans cette partie du monde sont Copa Airlines au Panama, Guiana Airways au Guiana, Lineas Aéreas Paraguayas au Paraguay et Lineas Aéreas Nacionales SA, l'INSA, au Pérou. Forces armées. Les militaires argentins font l'acquisition de trois exemplaires d'occasion en version cargo en 1973. Ces avions sont d'assez triste mémoire dans le pays, étant utilisés pour les vols de la mort pendant la dictature militaire. Ils accomplissent aussi des missions de transport pendant la guerre des Malouines. Après le conflit, la marine argentine rachète des Electra d'occasion supplémentaires et les modifie dans un rôle de patrouille maritime. Les forces armées d'Amérique latine ont recours à des Electra rachetés à des opérateurs civils comme avions de transport. C'est par exemple le cas de l'armée de l'air de Honduras. Action 4.4 en Afrique. La compagnie Cargo Transafrique International, dont le siège est en Angola, mais dont les avions sont immatriculés à São Tomé et Principe, utilisent longtemps des Electra. Elles ne s'en défait qu'à la fin des années 90 au profit de versions civiles d'avions Hercules. La compagnie congolaise Transafrique Airlift Service utilise également des avions de ce type. 4.6 en Europe. L'utilisation du L188 converti en cargo connaît un regain de popularité en Europe dans les années 80-90. Le secteur du transport de colis connaît une très forte croissance durant cette période, engendrant un déficit d'avions adaptés alors même que l'Electra se prête bien à cet usage. À titre d'exemple, la compagnie britannique Channel Express utilise un appareil de ce type à partir de 1993 pour assurer des transports de colis entre Cologne et l'Irlande pour le compte d'UPS. Une autre compagnie britannique, Atlantic Airlines, exploite un Electra dans ce rôle pour DHL jusqu'en 2013. Il s'agit du dernier Electra à avoir volé en Europe. Section 5, versions et dérivés. Les différentes versions du L188 Electra sont les suivantes. Le L188A, première version de série. L188AF, désignation appliquée au L188A converti en fret. L188PF, désignation appliquée au L188A converti en combi fret passager. L188C, version dont la masse maximale au décollage, la capacité en carburant et l'autonomie sont accrues. L'autonomie avec 5 tonnes de charge utile atteint 5 600 km. L188CF, désignation appliquée au L188C converti en fret. L188 Electra 2, désignation des appareils modifiés remis en service à la suite des accidents. Par ailleurs, le L188 a donné lieu à des dérivés militaires. Le P3 Orion, avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine, reprenant la cellule du L188. Il connaît une carrière bien plus fructueuse que la version civile, avec 757 appareils livrés jusqu'en 1990. Les marines américaines et japonaises sont ses principaux utilisateurs. Le CP-140 Aurora est une version de patrouille maritime réalisée avec 21 exemplaires pour l'aviation royale canadienne. La cellule est la même que sur l'Orion, mais l'électronique est celle du S3 Viking. Section 6. Accidents et incidents impliquant un L188 Electra. Voici la liste des accidents et incidents qui ont entraîné la perte d'un appareil. Le 3 février 1959, à l'approche de l'aéroport de LaGuardia, l'avion immatriculé N6101O de American Airlines descend trop rapide, erreur humaine, seulement 8 survivants sur les 73 occupants. 29 septembre 1959, près de Buffalo, Texas, avion N9705C, Braniff International Airways. Rupture de l'aile gauche en vol, due à un défaut structurel de l'avion, 15 survivants. 17 mars 1960, près de Canelton, Indiana, avion immatriculé N121US de Northwest Orient Airways. C'est le deuxième accident dû au problème structurel, aucun survivant. 4 octobre 1960, aéroport international Logan de Boston, N5533, Eastern Airlines, collision aviaire, seulement 7 survivants sur les 72 occupants. Le 12 juin 1961, à l'approche de l'aéroport du Caire en Égypte, avion immatriculé PHLLM, compagnie KLM, 20 morts sur les 36 occupants. L'accident est dû à une erreur humaine. Le 17 septembre 1961, à l'aéroport international O'Hare de Chicago, l'avion immatriculé N137US de Northwest Orient Airlines, dû à une erreur humaine, 37 occupants, pas de survivants. Le 22 avril 1966, aéroport municipal d'Ardmore en Oklahoma, avion immatriculé N183H de American Flyers Airlines. Le pilote a souffert d'un malaise cardiaque pendant l'atterrissage. Il n'y a que 15 survivants sur les 98 occupants. Le 16 février 1967, à l'aéroport international Sam Rutalangi, l'avion immatriculé PKGLB de Garuda Indonesia Airways. Descente trop rapide, l'atterrissage est si brutal que le train se brise. Il y a 22 morts. Le 3 mai 1968, à Dawson, Texas, avion immatriculé N9707C de Braniff International Airways. Pris dans une tempête, l'avion se brise à la suite d'une manœuvre à un fort facteur G. Pas de survivants. Le 9 août 1970, à 4 km de l'aéroport de Cusco, au Pérou, l'avion immatriculé OBR-939. Servant la compagnie Lanza, panne d'un moteur lié à un défaut de maintenance. Un seul survivant sur les 100 passagers. Le 24 décembre 1971, à Puerto Inca, au Pérou, avion immatriculé OBR-941, compagnie Lanza, détruit en vol par un orage. Il n'y a qu'un survivant. Le 27 août 1973, près de Bogota, en Colombie, avion immatriculé HK-777 de Aerocondor Colombia. Erreur de pilotage, l'avion percute une montagne dissimulée dans les nuages, il y a 42 morts, aucun survivant. Le 30 octobre 1974, à Area Point Airfield, territoire du Nord-Ouest, l'avion immatriculé CFPAB de Panarctic Oils. C'est un avion affrété par l'industrie pétrolière pour l'exploration dans le Grand Nord. L'avion s'est écrasé sur la banquise, seulement 2 survivants sur les 34 occupants. Le 10 juillet 1975, à l'aéroport international Eldorado, à Bogota, avion immatriculé HK-1976, Aerocondor, vol cargo. Collision au sol avec un Douglas DC-6, 2 morts. Le 4 juillet 1976, Naval Air Station Agana, sur l'île de Guam, avion immatriculé RPC-1061 de Airmania International. L'avion a rentré le volet trop tôt après le décollage. Le pilote ne parvient pas à avoir une vitesse ascensionnelle suffisante pour sortir du relief encaissé qui entoure l'aérodrome. L'avion percute le sol, tuant 45 occupants et une personne au sol. Le 30 juin 1977, au large du Panama, côté du littoral atlantique, avion immatriculé N126US, Coopérative Nationale à Montecio, vol cargo. Avion disparu en mer avec ses 4 occupants. Le 6 juillet 1977, à l'aéroport international de Lambert-Saint-Louis, immatriculé N280F de Fleming International Airways, c'est un vol cargo, et décollage sur 3 moteurs. L'avion ne parvient pas à prendre de l'altitude et s'écrase, tuant ses 3 membres d'équipage. Le 18 novembre 1979, à Salt Lake City, dans l'Utah, l'avion immatriculé N859U de Transamerica Airlines, c'est un vol cargo. Défaillance des instruments, perte d'orientation de l'équipage. L'avion se brise du fait de manœuvres trop serrées. Le 8 janvier 1981, à l'aéroport international La Aurora, Guatemala, avion immatriculé HRSAW de la compagnie Servicio Aérea de Honduras SA, la défaillance du système hydraulique pendant le décollage, l'avion s'écrase, aucun survivant dans les 6 membres d'équipage. Le 8 juin 1983, près de Cold Bay, en Alaska, avion immatriculé N1968R de Rival Ocean, vol Rival Ocean Airways 8. Une pale s'est détachée en vol. La pale percute le fuselage et provoque une décompressurisation explosive, mais l'équipage parvient à poser l'avion. Il n'y a aucune victime. Le 30 mai 1984, à Schuylkill, en Pennsylvanie, avion immatriculé N5533 de Zontop International Airlines, un vol cargo. Perte de contrôle en vol, probablement suite à une panne des instruments. Le 9 janvier 1985, à Kansas City, Missouri, l'avion immatriculé N357Q de TP International Airways Cargo, mauvaise condition de visibilité, l'équipage est désorienté lors de l'atterrissage. Le 21 janvier 1985, à l'aéroport international de Reno-Tahoe dans le Nevada, avion immatriculé N5532 de Galaxy Airlines, c'est un vol charter. Accident au décollage causé par une erreur de l'équipage au sol, la trappe de démarrage par air comprimé d'un moteur n'ayant pas été refermée, il y a 70 morts. Le 5 février 1986, à Kazongo, au Zaïre, l'avion 9QCWT de GLM Aviation, atterrissage forcé dans la savane. Il y a 2 morts sur les 14 occupants. Le 12 septembre 1988, à l'aéroport de Lago Agrio, en Équateur, l'avion immatriculé HCAZY de Tamé, Équateur, un avion cargo, il prend feu lors du décollage. Un moteur prend feu lors du décollage. Des 7 occupants y laissent la vie. Le 21 mars 1990, à Las Mesitas, au Honduras, avion immatriculé HRTNL de TAN Honduras, c'est un vol cargo. L'avion s'écrase à l'atterrissage dans un manque complet de visibilité lié à la météo. Le 18 décembre 1984, à Kaunegula, loi d'un aorté, en Ouganda, en Angola, avion immatriculé 9QCRR de Trans-Service Airlift. Les motifs du vol étaient inconnus. L'avion était largement sans surchargé avec 145 passagers, il n'y a que 2 survivants. Le 8 février 1999, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avion immatriculé 9QCDI de Air Caribou. L'avion transportait du carburant et des munitions pour l'armée congolaise. Il s'écrase suite à une panne de moteur au décollage. Et enfin, dernier accident, le 16 juillet 2003, à Cranbrook, en Colombie-Britannique. Avion immatriculé CGFQA de Airspray, c'est un bombardier d'eau. Il s'écrase pendant la lutte anti-incendie, tuant ses 2 membres d'équipage. Section 7. Exemplaires subsistants. 7.1. Exemplaires encore en service. Si plus aucun Electra n'effectue des vols réguliers, un petit nombre sont encore en service au Canada pour d'autres fonctions. La compagnie Buffalo Airways en possède 4 qui sont utilisés comme avions cargo sur affrètement vers des aérodromes isolés comme bombardiers d'eau. L'avion possède des caractéristiques. Avec son aptitude d'utiliser des pistes courtes et mal aménagées, et sa manœuvrabilité à basse vitesse, qui le rendent précieux et difficile à remplacer dans un budget raisonnable pour ses usages. 7.2. Exposés. Au moins 5 L188 sont préservés dans des musées. Cette liste n'inclut ni les P3 Orion ni les CP140 Aurora. Le numéro L1003 est exposé au musée de l'aviation navale américaine à Pensacola, en Floride. Cet avion est un Electra de série qui a été modifié pour servir de prototype au Lockheed P3 Orion. Le L1025 se trouve au musée aérospatial brésilien à Rio de Janeiro. Le numéro 1125, un ancien avion de transport aéromilitare, est exposé au musée aéronautique bolivien. Et 2 exemplaires se trouvent au musée de l'aviation navale en Argentine. Section 8, cinéma. Un Electra en version cargo, appartenant à une compagnie imaginaire appelée Drax Air Freight, apparaît dans Moonraker en 1979, un des films de la saga James Bond. Le premier film Borat fait aussi apparaître un Lockheed Electra utilisé par le personnage éponyme pour quitter son pays. Voir aussi. Avion de ligne quadriturbopropulseur similaire de la même époque. Vickers Viscount, Vickers Vanguard, Tupolev 114, Bristol Britannia, Ilyushin 18. Autres avions de ligne réalisés par Lockheed: Lockheed L049 Constellation, Lockheed L1011 TriStar. Bibliographie: Jim Upton, Lockheed L188 Electra, Specialty Press Publisher and Wholesaler 1999. Lockheed L188 Electra, Flight Digest Service, Lockheed 1958, 62 pages.